6h04, mercredi 25 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Ciel nuageux ce matin. Et c'est peut-être commencé dans votre coin, là, déjà quelques flocons de neige. Au total, on prévoit pour le Grand Montréal une accumulation qui varie de 5 à 10 cm, maximum plus 3. Par endroit, où il y a aussi une espèce de cocktail météo, là. Il peut y avoir de la pluie. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, et la pluie va commencer vraiment durant la nuit, avec un minimum de 2. Demain, jeudi, de la pluie pour démarrer la journée. Ça va cesser par la suite. Et le maximum prévu, 8 degrés. Et vendredi, pour l'instant, beaucoup plus confortable, mais c'est du temps gris, autour de 9 degrés. Je ne veux pas m'éterniser sur les anti-masques et le pasteur spécialiste de santé publique là, qui a décidé de s'auto-proclamer. Puis lui, il sait ce qui est bon, puis il sait ce qui est correct, puis lui est capable de nous donner des conseils judicieux, M. le pasteur. Là, il va falloir que le gouvernement envoie un signal. Parce que la police se présente, puis que les constats arrivent plus tard, puis qu'on... Ou on règle le cas, ou ben non, venez pas nous achaler avec vos mesures, là. C'est parce qu'il y a des gens qui se fendent en quatre pour les respecter. Un. Deux, si M. le pasteur remplit et respecte pas les règles, ce qui semble être une espèce d'église aménagée, pourquoi je pourrais pas le faire, puis pourquoi les autres pourraient pas le faire? C'est tout ça, là. À chaque fois qu'on vérifie avec la police, avec Québec, là, c'est toujours oui, oui, ça va s'appliquer. Puis les gens commencent à se poser des questions. C'est grave ou c'est pas grave? On l'applique ou on l'applique pas? Comme les gens de Place Rosemère. J'en dirai pas plus, puis je le sais que ce soir, ça va encore se pacter de monde, puis ça va être pareil dimanche. Puis la police va passer devant, puis quoi, la police va prendre des numéros de plaque. S'ils ne rentrent pas, là, comment est-ce qu'ils peuvent faire des constats? Maintenant, la question du jour, ou la formule du jour, c'est le 7-2-4-7. C'est-à-dire, 2 parties sur 4 jours et 16 jours de quarantaine avant et après. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris c'était quoi les conditions du contrat hier. Ils ont compris que même si on avait une fenêtre de 4 jours, il n'était pas question pour la santé publique de suggérer un 4 jours de festivités intenses, là. De recevoir du monde tous les jours, là. Il y en a qui ont pensé ça. On parle ici de 2 événements, 10 personnes maximum sur les 4 jours. Avec comme préalable la quarantaine de 16 jours avant puis la quarantaine de 16 jours après. Entre vous et moi, là, c'est pas tout le monde là, qui a un horaire de travail comme ça, là. Période de Noël, il y a bien des gens qui travaillent jusqu'au 23, jusqu'au 24. Vente, commerce de détail. Tu fais quoi le 24 si tu finis à 5 heures ou à 3 heures dans un centre commercial? Tu fêtes quand exactement? Si tu veux respecter les règles. Difficile un peu. Puis combien de gens peuvent dire, là, j'ai une semaine minimum après le 25 avant de recommencer à travailler? Il y en a, oui, ça s'applique. Il y a bien des gens pour qui c'est difficile. Puis des gens qui, par exemple, travaillent service de police, réseau de la santé, qui travaillent le temps des fêtes, puis qui ont congé au jour de l'an. Puis là, au jour de l'an, on leur dit, ben là, vous ne pourrez pas faire de festivités. Tout cela semble évidemment complexe. Et le docteur Arruda a ajouté hier que j'haïs un peu le côté, disons, paternaliste, là. Si vous voulez garder le cadeau, il faut que le nombre de cas soit en bas de 1000. T'sais, je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de dire aux gens, là, limitez vos contacts sociaux là, au maximum. Voyez votre famille immédiate, puis on se reprendra pour d'autres activités sociales, d'autres mondanités. C'est ça le message qui est envoyé. Parce que là, si on commence à décortiquer, je peux vous faire une liste jusqu'à 10 heures ce matin d'hypothèses. J'ai-tu le droit de faire ça? Et en bout de ligne, ce qu'il faut faire, c'est une question de jugement. Un, on limite. Deux, on ne force pas les gens à venir, puis on ne s'impose pas chez les gens qui ne veulent pas voir personne ou qui ont envie d'avoir des contacts plus que limités. Il faut que tu respectes ça. Ça devrait être tout le temps comme ça, même c'est quand il n'y a pas une pandémie. Et entre ces quelques jours, ben, c'est de s'isoler le plus possible. Bon, il y a des gens qui sont en télétravail, c'est vrai. Il y a des gens qui sont à la retraite, c'est vrai. Donc, ça touche une partie de la population, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde. Alors, je pense qu'il faut arrêter de se casser la tête avec 23 scénarios. Est-ce que je peux pas? Est-ce que le gouvernement te dit « prends-toi en main » et « organise-toi ». Puis là, je le sais qu'il y a des patrons qui ne vont pas vous donner séjour, là. Je suis assez conscient de ça, là. Puis même si on a demandé, dans le point de presse la semaine passée, aux employeurs de faire preuve d'ouverture, c'est pas nécessaire, pouvez-vous fermer pour donner le fameux séjour. Comme je sais qu'il y a des gens qui vont faire pareil des parties au jour de l'an. Puis là, ça a l'air que la police va débarquer, nous a-t-on dit hier, si on fait un party le jour de l'an. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Fait que, disons que le message, on va le garder simple, là. C'est idéalement, reste à distance, pas de contact, puis t'as le droit à deux parties. Quand je dis t'as le droit, là, c'est même pas une question de droit pour moi, là. C'est une question de... J'ai envie de voir mes enfants, mes petits-enfants, puis ça va s'arrêter là. Point final. Premier dossier. Deuxième dossier, c'est le vaccin. On a compris hier avec M. Trudeau que le vaccin va d'abord être distribué dans les pays producteurs, c'est-à-dire les Américains, les Britanniques, là où on a trouvé le vaccin, ben, ils vont servir en premier. Deuxièmement, on n'a pas depuis des lunes une capacité de production, une capacité manufacturière de vaccins au Canada. M. Trudeau l'a dit hier. Donc, on ne peut pas là, partir la chaîne et se mettre à produire des vaccins. Je lisais ce matin dans le Globe and Mail que le vaccin qu'on pourrait peut-être produire ici et qui serait plus facile à conserver, c'est celui d'AstraZeneca, dont l'efficacité varie un peu. Là, on sait qu'il y a deux résultats, ce qui donnait au total... autour de 90 %, il y a eu un groupe avec 70 %, mais ce serait ce vaccin-là qui peut-être, je dis bien peut-être, serait le premier au Canada. Alors, ça va prendre du temps. Hier, Legault a dit, ben là, on a hâte de savoir quelles sont les doses pour le Québec puis à quel moment on va pouvoir amorcer la campagne de vaccination. C'est assez clair que ça n'arrivera pas là, avant le début de 2021. Aux États-Unis, Grande-Bretagne, c'est déjà commencé. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, M. Legault a dit hier, il n'y aura pas un militaire à la tête de l'opération de vaccination, comme on le voit en Ontario, avec un général à la retraite. Personnellement, là, ça ne me dérange pas, moi, que ce soit un militaire, un ex-militaire, que ce soit un expert en logistique. Je veux juste savoir qui est en charge. Quels sont les préparatifs de Québec? On a le droit de savoir ça. Les autres pays l'expliquent à leurs citoyens. Les autres juridictions disent aux citoyens, là, voici comment ça va marcher et voici qui est en charge. Et s'il y a des, disons, des gaffes, si ça ne marche pas, bien, on saura qui, à qui poser les questions. Là, j'écoutais ça hier, bon, on va vous le dire éventuellement. On a appelé la santé publique, là, on a parlé de ce sous-ministre qui arrive de la sécurité publique, M. Gagnon. Puis là, on a dit, on peut-tu y parler? Bien, là, il ne s'explique pas encore lui tout à fait. Tu sais, c'est du gros niaisage, là. Il me semble que tu fais un point de presse formel, t'as le premier ministre, t'as le ministre de la Santé, tu dis, voici monsieur, madame, une telle, en charge des opérations de vaccination, puis on fera le point quand on sera rendu un peu plus près pour vous dire comment ça va fonctionner, là. Alors, pour ce qui est donc du Canada, il y aura des délais, ça, c'est à peu près sûr. Puis quand on parle des délinquants, vous avez vu les images de l'Ontario hier, on a fermé des restaurants dans le bout de Toronto, là, la région Peel, où la police est intervenue. Parce qu'il y a un restaurateur, je pense qu'il y avait quelques établissements, qui lui dit, moi, là, c'est assez. Et j'ai décidé d'ouvrir, puis envoyer ça sur les réseaux sociaux. Puis ses clients se sont rassemblés. Et donc, la police est intervenue, puis on a décidé de fermer l'établissement. Puis je le vois, là, que les restaurateurs sont frustrés. Puis avec raison, les propriétaires de gym, non seulement ils ne peuvent pas rouvrir, mais l'aide gouvernementale, c'est compliqué. M. Fitzgibbon nous a dit hier qu'il y en a beaucoup qui ont reçu leur chèque, il y en a d'autres qui sont dans l'attente, puis ils reconnaissent que la mécanique n'est pas toujours parfaitement huilée, là. Puis là, qu'est-ce qu'on découvre ce matin? C'est que l'argent disponible pour les PME du secteur, là, les bars, les restos, programme d'aide au centre-ville de Montréal, il n'y a plus une scène. Je regarde, ça c'est dans Radio-Canada, et je regarde ce matin, autre dépêche qui nous arrive du soleil, la Ville de Québec a épuisé les fonds d'aide du ministère de l'Économie. Fait que là, les deux villes les plus importantes du Québec, ça a l'air, ont plus une scène, c'est Mme Plante, Valérie Plante, qui prend de l'argent puis qui, ça a l'air, va compenser. Venez pas me dire qu'il n'y a pas un problème pour être efficace puis répondre aux besoins des restaurateurs. Fait que c'est sûr qu'ils sont frustrés, c'est sûr qu'ils sont en maudit. Puis en même temps, va-tu ouvrir pour quelques jours avec tout ce que ça implique de commandes de nourriture, de ramener le personnel, puis pas grand monde qui veut faire ça, mais ils veulent avoir un horizon. Puis pour l'instant, c'est le 11 janvier, puis surtout, ils veulent avoir une aide financière qui est efficace, que l'argent rentre. C'est facile à dire, ils ne veulent pas montrer leurs chiffres. Là, ils ont simplifié, semble-t-il, les procédures. Alors, on a ce double constat ce matin. Un petit mot aussi sur l'opération vaccin qui se déroule actuellement pour la grippe saisonnière. C'est vrai que Québec est habitué d'organiser des cliniques, puis que cette année, on a ajouté des pharmaciens. Christian Dubé disait hier, on va peut-être ajouter d'autres professionnels dans l'opération. Mais c'est aussi vrai que cette année, la demande est très forte. Et je connais plein d'endroits où pharmacie, médecin, là, où la commande a été coupée en deux, puis que de temps en temps, on en ajoute, puis que les rendez-vous sont rendus assez loin en pharmacie pour pouvoir être vaccinés. Et dans la perspective où on va devoir vacciner encore plus de monde, où la demande va être encore plus forte dans le cas de la COVID, je pense que c'est important de savoir qui est en charge de ça. Et l'autre chose, ce matin, je le dis tout de suite, là, il y a des tendances anti-vaccins, puis il y a des gens qui veulent rien savoir, puis est-ce que le vaccin va être sécuritaire, puis bon. Là, il y a le vaccin de la grippe qui circule, et il y a 5 provinces au Canada qui ont retiré un certain lot de vaccins parce qu'il y a eu des problèmes. Et les provinces qui ont pris cette décision-là, c'est le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan. Le Québec recommande de maintenir pareil la vaccination avec les lots pour lesquels il y a eu des problèmes. Alors, c'est la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline. Et ça fait quelques jours que c'est dans le décor, ce débat-là. Et on a découvert, par exemple, au Nouveau-Brunswick, 3 cas, disons, d'effets secondaires sérieux qui ont suivi l'administration du vaccin. Une personne a eu le syndrome de Guillain-Barré, qui est très lourd, là. Quelqu'un également a eu une paralysie de Bell. Bref, des maladies plutôt rares. Et est-ce qu'on les associe directement au vaccin? Mais dans ces provinces-là, on a décidé de ne pas utiliser les lots comme tels. Il n'y a pas eu de cas au Québec. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé décide quand même de poursuivre avec les lots. Et il y a des enquêtes qui sont en cours. Et hier, je voyais les responsables des provinces qui disaient on préfère jouer de prudence. Là, Québec va devoir expliquer pourquoi au Québec on ne joue pas de prudence et pourquoi ce n'est pas un problème. Parce que là, les gens, ils étaient un peu, là. Vas-tu me faire vacciner avec un truc qui est retiré du marché dans l'attente des résultats d'analyse? C'est un autre exemple où ça mérite des explications très claires, très précises ce matin, parce que là, les gens vont commencer à s'inquiéter. Moi, j'ai mis mon rendez-vous chez un pharmacien, il va m'injecter quoi, là? Parce que c'est un produit qui est autorisé juste au Québec, qui est barré ailleurs pour l'instant. Ça fait beaucoup de questions, là. Dans les autres dossiers, ben, tel que prévu, le ministre Simon Jolin Barrette nous a annoncé hier qu'il était pour annoncer quelque chose éventuellement. Et ça, c'est le dossier de la loi 101. Bref, il nous a promis des mesures robustes pour protéger le français. Il y a évidemment cette espèce de consensus qui s'établit, qui, évidemment, dépasse le cadre partisan sur l'état, disons, précaire du français. Le français est menacé et, comme je le disais hier, sera toujours menacé. Sauf que M. Jolin Barrette n'a rien à nous dire. La seule chose qu'il a pu lancer, c'était d'appliquer la loi 101 au cégep, donc pas juste aux primaires, aux secondaires, que les enfants d'immigrants seraient obligés d'aller dans un cégep francophone. François Legault a dû oublier ça, a fermé la porte. On est ouvert, mais c'est pas dans la position du parti. C'est pas la première fois que le PM est obligé de ramener Jolin Barrette à l'ordre. Alors, l'opération d'hier est peut-être stratégique, là. Il y a peut-être un coup fumant derrière ça. Mais sérieusement, là, ça fait pas. puis je le disais avec mon ami Bernard hier, c'est même affaire pour Mélanie Joly, là, on nous promet, paraît-il, un livre blanc concernant la défense du français au Canada, la politique sur les langues officielles. Autre chose ce matin, dans Le Devoir, encore une histoire de difficulté d'accès pour les services de soutien en santé mentale. Et on raconte l'histoire donc d'une jeune femme qui s'est retrouvée un peu dans les guichets, puis que les délais ont été extrêmement longs. Elle avait des pensées troublantes. Je vais citer Le Devoir ce matin. D'abord, ça a pris 9 mois là, avant qu'elle puisse obtenir des services. Je savais que je voulais tuer des gens. J'étais complètement déconnecté. Je n'étais même pas sûr qui. Je ne savais pas quand, comment, mais je savais que j'avais quelque chose de trop violent à l'intérieur, dit cette jeune femme de Québec. Et la perte de contrôle a commencé il y a pratiquement un an, disons 11 mois, durant un souper. Elle a découvert que son copain lui avait caché des choses importantes. Et là, ça s'est mis à basculer. Et là, elle a tenté d'obtenir par le CLSC. Et ça a pris des mois et des mois. C'est un autre cas qui s'ajoute. Donc, de difficulté d'avoir d'abord un diagnostic, puis en même temps un suivi. Là. C'est pas juste de rencontrer la personne une fois puis lui dire « Regarde, voici ce qu'on pense que tu as. » Mais c'est d'être capable également de faire un plan de traitement. Puis tantôt, je vais parler avec Jasmine, c'est pas son vrai nom, mais c'est une jeune femme qui a vécu la violence conjugale et qui, au début de cette pandémie, et on le sait que le niveau de violence a augmenté, autant face aux enfants, face aux femmes qui étaient déjà dans des relations parfois chaotiques, ce qui est le cas de Jasmine. Et finalement, elle a obtenu de l'aide pour s'en sortir, puis aujourd'hui, elle va mieux, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on va lui parler tantôt. 6h22. La métropolitaine.